maison. En train, en char ou en avion. En Weydon, à Weydon. En Weydon, en Weydon. On sort de la maison. En train, en char ou en avion. En Weydon, à Weydon.
Ah ouais donc, ah ouais donc, ah ouais donc, le rondeau complètement marteau, ah ouais donc!
Salut Benoît Rioux, comment vas-tu?
Les Renault vont bien?
Ben, les Renault avancent, okay, à un moment donné, on va s'en sortir pour pouvoir faire un podcast dans un setup plus accommodant, on va le dire comme ça. Mais sinon, tout va bien. Je suis content de te retrouver. La semaine passée, on a eu un petit problème technique qui a fait qu'on n'a pas pu faire le podcast. Tout est réglé maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Donc, content de te retrouver. On a une émission chargée encore une fois cette semaine. On va recevoir Pierre-Luc Napper, qui est... assistant professeur à l'Université Laval de mémoire, oui, c'est ça. Oui,
exactement, c'est pour ça que
en j'ai comptabilité. Eu
mon complet, là, tu sais.
Bon, oui, je suis un peu en underdress, là, comparé à toi. mais on va un peu parler du dossier des Aces d'Oakland qui ont maintenant le droit de regarder ailleurs, si on peut le verbaliser comme ça. On va aussi parler du possible retour des expos, bref. Pourquoi ça serait rentable? Qu'est-ce qui va se passer avec les... On va parler chiffres un peu. On va comme
ouais, ça va être très intéressant parce que Pierre-Luc a déjà été dans l'organisation des Blue Jays de Toronto. Tu sais, donc, c'est vraiment quelqu'un, c'est un gars de baseball, pas juste d'économie. Là, donc, c'est une source incroyable puis on est vraiment content de l'avoir.
Exact. Notre collègue Ozoué Pélé va être aussi avec nous. Le petit cachetier nous avait caché qu'il allait faire l'équipe canadienne pour faire le tournoi qualificatif pour les Olympiques là, des Amériques. Donc, on va le rejoindre là-bas parce qu'ils jouent leur premier match ce soir. Donc, on va aller le rejoindre.
Si tu regardes le dernier épisode, là, Sylvain, à un moment donné, je fais un clin d'œil. Là.
Tu le savais, toi, mon cachetier.
Ouais. Il avait un bon indice. Mais il va être directement de la Floride. Fait que c'est exact. Super cool qu'il prenne le temps. Donc, j'ai hâte de le retrouver.
Yes, puis on va aussi faire un petit débat sur les fameuses lois non écrites au baseball. On va se rappeler du fameux circuit de Yermin Mercedes avec 3 balles, aucune prise, dans un match déjà gagné d'avance. On va s'inspirer de ça pour voir qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, les fameuses lois non écrites que les joueurs doivent respecter. On parle.
On amène Pierre-Luc.
Pierre-Luc est là. Allô, Pierre-Luc Napper, ça va bien?
Ça va très bien, vous. Napper, les pieds dans la boîte, en vrai!
Merci d'être là, Pierre-Luc. Oui, vas-y, Ben.
Pierre-Luc, premièrement, j'aimerais juste que tu nous donnes un peu un portrait de ton background. Tu sais, je sais que tu as travaillé pendant 3 ou 4 ans avec les Blue Jays de Toronto. Donc, c'était quoi ton rôle là-bas? Puis à quel point ça t'a appris, tu sais, sur tout le... Comment que ça fonctionne, tu sais, le baseball et tout, tu sais. Puis maintenant que tu es assistant professeur, il y a des liens hyper intéressants à faire.
Ouais, absolument. En fait, moi, je suis un gars de la région de Québec. J'ai passé plusieurs années là, pendant mes études au bac à maîtrise avec les Capitales là, à faire un paquet de rôles connexe, en sens où les Capitales, c'est une petite organisation, puis l'après-midi, ça peut être de rentrer des chiffres dans Excel, puis après ça, c'était de mettre la toile sur le terrain parce qu'il y avait de la pluie potentiellement, ou aller installer des panneaux dans le champ pour des partenaires. Donc, ça m'a fait une belle expérience pendant plusieurs années aux Capitales. Puis en 2014, pour des raisons là, familiales, ma conjointe et moi, professionnelle, ma conjointe et moi avons déménagé à Toronto, puis je me suis retrouvé là-bas sans emploi. Sachant pas trop vraiment quoi faire, je cherchais un petit peu sur les différents sites. Il est apparu un poste aux finances avec les Jays, puis j'ai appliqué. Je me disais, si j'ai pas ce poste-là, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire d'autre, là, étant donné mon parcours dans le baseball. Puis j'ai été super chanceux parce que j'ai eu l'emploi, puis j'ai eu la chance de passer 3 belles années là-bas. Puis ça a été les années où justement l'équipe a participé aux séries éliminatoires à 2 reprises. Donc c'était assez particulier à vivre d'un point de vue baseball. Puis d'un point de vue plus professionnel, c'est sûr que ça m'a donné une bonne compréhension de comment ça fonctionne, les finances. Puis la réalité là, d'une équipe professionnel dans le baseball majeur. Puis en 2017, j'ai décidé de faire un petit changement de carrière, de retourner aux études, faire un doctorat en comptabilité. Puis, ce que les gens ne savent pas nécessairement, c'est que le rôle d'un professeur d'université, évidemment, il y a l'enseignement, mais il y a une bonne partie aussi que c'est de la recherche. Puis, la recherche en comptabilité, ça peut être excessivement varié. Et moi, de mon côté, je me disais, pourquoi pas faire quelque chose sur un sujet qui me passionne. Donc, à peu près tous les travaux que je fais présentement ont un lien avec le sport et plus particulièrement le baseball parce que c'est celui que je connais le mieux.
Puis tes tâches, j'étais dans finance avec les Blue Jays, là, on comprend que tu posais pas de pancarte aux chansons comme au Stade Canac, mais c'était quoi les tâches concrètes? Tu y allais la masse salariale ou c'était plus comme livre comptable au niveau de l'organisation, les concessions?
Comment ça fonctionnait au niveau de la comptabilité des Jays? On était à peu près 3 ou 4 là, dans mon rôle où on se départageait là, les différentes fonctions de l'organisation. Donc, il y avait des gens qui s'occupaient des finances de la boutique Souvenir, des concessions. Il y en avait qui étaient au niveau de la billetterie, là, faire le suivi. Puis moi, ben, j'avais la chance de travailler étroitement avec les opérations baseball. Donc, ce que ça voulait dire concrètement, c'est que je m'occupais de tout ce qui était leur budget, tout ce qui était leur... c'est beaucoup de planification financière. Les Blue Jays appartiennent à Rogers, qui est une compagnie cotée en bourse. Donc, beaucoup de rapports qu'il fallait envoyer à la maison mère, là, au quartier général. La masse salariale, souvent, comment ça fonctionnait, c'était des négociations. Là. C'est un chiffre qui partait de... on partait souvent avec un chiffre de rentabilité, là, un chiffre de ce qu'on appelle dans le langage comptable EBITDA, là, les bénéfices avant impôts, intérêts, amortisation. Donc, on voulait supposément atteindre ce chiffre-là. Puis ensuite, c'est de faire le mécanisme avec les budgets de... Si on veut avoir ce chiffre-là, on peut se permettre de dépenser combien en masse salariale? Si on dépense ce chiffre-là en masse salariale, combien de revenus potentiels on est capable d'obtenir? Donc, il y a beaucoup de négociations avec les différents départements pour essayer de trouver un peu la formule magique. Puis une fois que c'était établi, c'était de le suivre autant que possible. Évidemment, il pouvait y avoir des circonstances où, je donne l'exemple de 2015, là, on s'était gardé un petit peu d'argent pour justement, à la date limite des transactions, être capable de faire des échanges aux besoins. On sait que Alex Antopoulos a utilisé ces ressources-là justement pour aller chercher David Price, aller chercher Ben Revere, Troy Tulowitzki. Donc, c'est un petit peu là, ce genre d'aspect-là. Mais au niveau des décisions, une fois que nous, aux finances, on avait établi que le budget des joueurs, exemple, est de 120 millions, à partir de ce moment-là, c'est l'enveloppe qui est dans les mains du directeur général, puis lui, il le gère comme il veut. Là. Nous, on ne pose pas vraiment de questions à ce niveau-là.
Pierre-Luc, on s'entend que, mettons que vous aviez fait un draft là, avant le début de l'année, là, toi et tes 3 autres collègues, là. T'as le first pick, là, tu prends les opérations baseball, là, tu prends pas la boutique souvenir.
en effet, moi personnellement, en tant que fan de baseball, c'était clair et précis. Quand ils m'ont engagé et m'ont dit on aimerait quelqu'un qui s'occupe des opérations baseball, j'avais les yeux gros comme des balles de baseball, justement. Là, j'étais comme OK, parfait. Mais en même temps, surprenamment, il y avait beaucoup de gens au département des finances qui n'avaient pas tant d'intérêt et pas tant de connaissances baseball que ça. Dans le sens que les gens ne savent pas nécessairement toujours, c'est qu'une fois entre 9 et 5, c'est un job de comptable comme job de comptable dans une usine ou job de comptable dans une boutique, justement, là, je veux dire, c'était s'asseoir devant un ordinateur pour faire des fichiers. C'est juste que moi, mes postes de dépenses, ils s'appelaient Osé Bautista et Edwin Encarnacion, mais en même temps, d'autres personnes pourraient voir ça complètement différent.
Mais ça permet de garder la tête.
En tant que fan de baseball, j'étais vraiment heureux. Puis aussi, l'aspect des. On ne connaît pas nécessairement toujours comment ça fonctionne. Il y avait un gros. En fait, je pensais beaucoup plus de temps à m'occuper des autres aspects des opérations baseball qui étaient comme le développement des joueurs, puis dépistage amateur, professionnel. Il y avait beaucoup de. Bon, aussi des budgets au niveau des. Des bonus de signature, des choses comme ça qui devaient être déterminées. Ça occupait beaucoup plus de mon temps, honnêtement, que l'équipe des majeurs. Là, à ce moment-là, rendu là, c'est une machine qui est bien rodée. Mais là, maintenant, ça a diminué. Mais à l'époque où j'étais là, les Blue Jays, c'était 10 clubs école quand même. Hein. Donc, c'était plus d'attention qui était à ce niveau-là. Ça m'a permis d'apprendre aussi comment ça fonctionne parce que j'avais aucune idée nécessairement avant de me diriger là, comment c'est quoi le processus, puis qui paye quoi. Puis on entendait aussi beaucoup à l'époque là, de questions au niveau du salaire minimum des joueurs des ligues mineures. Les Blue Jays, on avait le dossier du stade de camp d'entraînement à Dunedin avec le complexe qui ont eu des grosses rénovations dans les dernières années. Donc, il y avait beaucoup de montants qui passaient à ce niveau-là.
Nous, Pierre-Luc, on est vraiment content de t'avoir avec nous. Puis, en fait, on voulait un peu que tu nous verbalises la situation du possible retour des expos avec la situation des villes sœurs. Tout le monde se pose des questions. Est-ce que ça pourrait fonctionner financièrement parlant? Est-ce que les expos, ça va être encore une situation où on va avoir de la misère à faire des sous ou non? Ça peut être profitable comme situation. Comment tu peux démêler tout ça pour les gens qui nous regardent en gardant ça simple? Parce que là, les comptables, des fois, vous allez dans les chiffres, vous allez nous perdre, mais gardons ça simple parce que tu as quand même le partage des revenus du baseball majeur qui va avoir une entrée d'argent quand même très, très intéressante en partant sans même avoir vendu un seul billet. Là.
Ben, en fait, pour garder ça simple, puis le contexte de la pandémie fait en sorte que le modèle d'affaires des équipes professionnelles, puis notamment dans le baseball majeur, a été chamboulé, là, pour je pense pas que ce soit nécessairement le terme est pas peu fort. Puis la question qu'on se pose, on n'a pas nécessairement la réponse à l'heure actuelle. Puis c'est l'avenir qui nous le dira, mais à quel point on a autant besoin d'avoir 25, 30, 40 000 personnes dans les gradins pour que ça soit viable? C'est une bonne question. Ce que je sais par contre, c'est qu'effectivement, tu as entièrement raison, Sylvain, que avec le partage des revenus du baseball majeur, tu as déjà une bonne rentrée d'entrée d'argent avant même d'avoir vendu un billet. Puis quand on parle de partage des revenus, ce n'est pas juste comme que les Yankees envoient un chèque aux Rays ou aux Marlins. C'est aussi tout ce qui est en lien avec les contrats de télévision. Puis MLBAM aussi, là, tout ce qui est Internet. Tout ce qui est marchandises, là, Benoît, ta casquette des expos, elle a probablement un tag MLB quelque part. Puis quand elle est vendue, ça c'est de l'argent qui que New Era ou que les différents fabricants doivent verser, là, une cote qui revient aux ligues majeures. Puis ça, c'est l'argent est distribué également en 30 parts. Donc, peu importe que ce soit des casquettes ou des t-shirts des Yankees qui soient vendus par rapport à ceux des Rays ou des Marlins, ça ne change absolument rien. C'est divisé en 30. Donc, le brand MLB est beaucoup plus important qu'on pense quand on vient de faire la distribution de l'argent aux 30 équipes. Après ça, ben, les contrats de télé prennent de plus en plus de place. Pour une organisation comme les Expos, ben là, on parle d'une équipe à Montréal avec potentiellement le contrat de télé de Tampa, le contrat de télé du Québec. On parle de deux gros marchés potentiels. Quand on parle du Québec, on ne parle pas juste du Québec parce qu'on parle d'une bonne partie du Canada. Il y a quand même il y aurait potentiellement juste deux équipes au Canada dans ce cas-ci. Donc, potentiellement, il y a beaucoup d'argent à aller chercher là. Puis après ça, évidemment, il y a la vente des billets. Bon, ça, c'est une chose. La deuxième chose qu'il faut tenir en tête, c'est qu'une équipe du baseball majeur, sa rentabilité est difficile à être évaluée si on regarde juste les livres comptables d'une équipe. Puis encore là, les livres comptables d'une équipe ne sont pas disponibles publiquement. Les organisations, à part les Braves d'Atlanta qui sont cotées en bourse, les Blue Jays qui appartiennent à Rogers, les 28 autres clubs, c'est des organisations privées. On n'a aucune idée réellement c'est quoi leurs états financiers. Quand les équipes nous disent qu'ils perdent de l'argent, c'est pas nécessairement vrai parce qu'il y a plusieurs mécanismes qu'ils peuvent utiliser pour faire en sorte que, par exemple, l'exemple classique, là, le propriétaire de l'équipe est aussi propriétaire de la station de télé qui diffuse les matchs. Donc, la station de télé, normalement, devrait payer des droits à l'équipe pour diffuser des parties. Et là, c'est une négociation qui n'est pas nécessairement de bonne foi, dans le sens où le propriétaire pourrait décider de mettre moins d'argent dans son équipe de baseball pour deux raisons. La première, c'est au niveau du repartage des revenus. Tu n'as peut-être pas nécessairement le goût d'envoyer l'argent aux 28, 29 autres équipes. La deuxième, c'est quand tu veux négocier pour avoir un stand, quand tu veux négocier pour avoir des avantages fiscaux avec les villes, ça paraît toujours mieux quand tu dis que ton organisation n'est pas très rentable que si elle fait 100 millions de profits par année. Donc, c'est plein de petites techniques comme ça que les organisations peuvent utiliser de temps en temps. La deuxième chose que les gens gardent, oublient souvent, c'est que les équipes de baseball, parce qu'il y en a juste 30, c'est un actif qui est très rare, puis qui va prendre la valeur avec le temps, sans nécessairement qu'il y ait eu quelque chose de... sans que ce soit nécessairement en lien avec les bénéfices qui sont gagnés par les équipes à chaque année. Donc, je prends un exemple, parce qu'on va en parler tout à l'heure, des A's d'Oakland. Les A's d'Oakland ont été achetés par le propriétaire actuel, M. Fisher, en 2005 pour 180 millions. Puis aujourd'hui, c'est une organisation qui est évaluée par Forbes 15-16 ans plus tard, à 1,1 milliard. Donc, en 15-16 ans, la valeur de la franchise s'est appréciée d'un milliard. Fait que même si elle avait fait un peu de perte dans les dernières années, c'était pongé assez rapidement juste par l'appréciation de la franchise. Donc, pour venir un peu à la question un petit peu plus concrète, moi, j'ai toujours la prémisse de penser que si des gens comme M. Bronfman pensent que c'est un bon projet, j'ai tendance à leur donner le bénéfice du doute puis leur dire que c'est un projet qui va être rentable pour eux. Puis quand on parle de rentabilité, il y a plein d'autres choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Des fois, c'est financier avec l'équipe, mais des fois, c'est avec des projets connexes ou aller chercher un capital social. Mais ces hommes d'affaires-là, ces milliardaires-là, s'ils font ces projets-là, c'est parce que c'est bon pour eux, là.
Ben, en partant, effectivement, c'est la base de faire des affaires, c'est que si tu veux pas, je veux dire, perdre de l'argent dans chacun de tes projets. Ben, tu avais une question, vas-y, je vais continuer après.
Ben, en fait, on a, je pense qu'on a un autre invité qui est, ben, Osoué, qui est en, on pourrait le faire rentrer, là, tu sais, on dirait ouais. Que, moi, je trouve ça super, super intéressant, Pierre-Luc, ce que tu dis, ben, on dirait que ça fait comme... Ça fait 20 ans, tu sais, je pourrais aller à l'école, cégep, université, qu'on dirait que, tu sais, pour de vrai, j'ai tout suivi, là. Pour de vrai, j'ai tout suivi, là. On dirait que j'ai besoin d'aller à la récréation avec Osoué, là. Puis après, on prend les discussions plus économiques. J'ai besoin d'aller jouer au ballon chasseur un peu là, avant de la deuxième partie du cours. Hey, Osoué, directement de la Floride. Team Canada. Écoute, Osoué, je t'avais fait un petit clin d'œil là, pour premièrement, tu sais, félicitations pour.
Ben oui.
Pour écoute, tu as fait l'équipe canadienne. Là, comment que tu as pris ça? Puis j'aimerais ça que tu partages les sentiments que tu avais quand tu as su que tu faisais partie de l'équipe canadienne pour les qualifications olympiques.
Ben, tu sais, c'est sûr que de un, j'étais vraiment content. C'est certain que je m'attendais vraiment, mais vraiment pas à ça. J'avais un petit scoop de mon bon ami Jonathan Monlo parce que, bon, lui, ça fait vraiment longtemps là, qu'il est dans le système de l'équipe canadienne. Puis Greg, c'est lui qui s'occupe mal de faire l'équipe. Lui avait glissé un mot comme quoi que l'équipe avait besoin d'un joueur qui est capable de jouer un petit peu partout là, dans pour le terrain. Alors, l'équipe avait cette besoin-là, puis quand je pars, mais Greg, il m'appelait, c'est justement qu'il m'en vient ici, donc,
Osoué, t'es vraiment notre insider, là, puis on va prendre ce que tu nous donnes là, par rapport à où est-ce que t'es, là, puis on va voir si la connexion va tenir, là, parce que je sentais que c'était chambranlant. Mais là, t'es-tu notre vrai insider, là?
Ben écoute,
j'aimerais ça que tu bouges ton téléphone, là, tu sais, que tu nous montres t'es où, t'es dans la chambre, y a-tu quelqu'un avec toi? Comment que ça se passe, là, quand on est dans une compétition? Est-ce que vous avez fait votre ménage?
Écoute, on n'a pas tant fait notre ménage. Tu sais, comme tu peux voir ici, on a un petit stock. On a ton badge aujourd'hui, là, comme tu peux voir. Lui, il n'est pas très, très beau.
C'est bon, là.
Je suis dans la chambre à Joe parce que moi, dans ma chambre, là, l'Internet, je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont acheté. Là. J'étais avec mon ami Joe ici. Là, il est en train justement aussi de.
Salut, les gars. Oh. Hey, salut, Joe.
Allô, Jonathan.
C'est une nouvelle réalité de jouer à la balle à 37 ans. C'est que je dois travailler en même temps à côté.
Wow. OK. Il y a des gens à la maison qui peuvent penser que c'est bien glamour là, d'être sur l'équipe canadienne, mais en même temps, là, présentement, tu es en train de travailler alors que vous avez un match ce soir contre la Colombie.
Ouais, je vais prendre chaque moment que je peux. Là, déjà, de partir pendant un mois, le travail, c'était pas évident. Fait que j'essaie le plus possible de travailler pendant.
Les hommes multidisciplinaires, c'est incroyable.
Ben oui, on a pas mal de choix.
Comment qu'on se sent avant le match contre la Colombie? On est-tu nerveux? On a déjà eu quelques matchs préparatoires, entre autres contre les États-Unis, des entraînements. J'ai vu que vos lanceurs font quand même très bien. Comment qu'on se sent avant ce match-là? Puis avez-vous des scoops pour nous autres? Je pense que c'est Albers qui lance ce soir, Andrew Albers.
Exact. Écoute, on a joué trois matchs préparatoires, dont deux contre les États-Unis. Et c'est pas une cachette de vous dire très fort. On faisait un petit peu là, l'exercice dans l'autobus en s'en venant après le deuxième match. Puis on faisait, bon, lui a joué 8 ans dans les majeures. Ah, oh, lui a joué 15 ans dans les majeures. Ah, oh, lui a joué 7 ans dans les majeures. Ah, oh, lui a fait 180 millions dans sa vie. Donc, non, on s'amusait à faire l'exercice comme ça. Mais tu sais, dans un tournoi comme ici, tout peut arriver. On a perdu 2-1 puis 4-1 contre les États-Unis. Alors que on a eu quelques manches, là, qu'on aurait pu faire des points, puis on aurait pu leur faire mal, mais tu sais, ils ont des lanceurs, là, justement, Joe, là, la deuxième game, il est venu affronter Anthony Goss, qui lançait à 87 de la gauche, puis il a fait deux curveballs, puis commencé son
match. Wow!
Là, à quel point que ces gars-là vont être bons, mais comme je te dis, là, tout peut arriver là, dans un tournoi comme ça, puis tu l'as très bien montré, nos lanceurs, là, ils ont vraiment... Puis, on a un Andrew Alberts qui est en forme. C'est un match des États-Unis. Il a absolument tout donné. Donc, confiance ce soir contre la Colombie.
Avant le début du tournoi, Ozoué, tu parlais que tu allais probablement jouer un rôle d'utilité ou super utility. Joe parlait de peut-être même jouer à la réco. Est-ce que c'est ça qui se dessine pour ce soir?
Ben, écoute, c'est certain que de mon côté, je vais être, comme tu l'as expliqué, super utility. Donc, je peux être un bâton qui va sortir du dugout parce que, bon, on a quand même beaucoup de gauchers dans l'alignement. Et du côté de Joe, c'est la même chose. Joe, il va être le premier appelé là, à jouer dans l'avant-champ. Ça peut être au deuxième but, au troisième but, à l'arrêt-court. Alors, tout va dépendre là, de la situation, tout va dépendre du match. Il y a déjà quelques gars là, qui sont un petit peu banged up. Là. Il y a quelques gars qui ont déjà un petit peu mal au bras, qui ont mal aux jambes. C'est très court comme tournoi, mais en même temps, c'est chaque game, tu ne peux pas la prendre à la légère. Mm-hmm. Saison de 162 matchs, de temps en temps, tu popes un roulant à l'arrêt court, pas obligé de courir à 100% là, au premier but. Et dans un tournoi comme ici, là, tu ne peux pas te permettre ça. Là, tout retrait compte, chaque point compte. On s'est pratiqué beaucoup là, à justement à faire bouger nos coureurs. On a pratiqué beaucoup nos bonnes defense. On le sait très bien que Cuba et la République, le Venezuela adore faire des coups amortis. On le sait que Cuba a joué contre la République. J'ai eu la chance d'aller parler là, avec mon ami Batista. Puis la première chose qu'il m'a dit, c'est man, faites attention à Cuba. Là, ils ont bonté comme 4-5 fois contre eux autres. Puis c'était un match préparatoire. Donc, wow. Ça va être très important là, pour nous autres là, de jouer du baseball quand même inspiré. Puis jouer la petite balle, comme on appelle. Là. Il faut faire toutes les retraites, des choses simples. Il va falloir les faire. L'équipe qui pense, je pense qu'il va faire le moins d'erreurs, c'est l'équipe qui va avoir une meilleure chance de gagner.
Bon, dans toutes ces...
Attends, Ben, Pierre-Luc, on vient à toi parce que je veux absolument parler des aces là, d'Oakland tantôt, là, genre la petite roche dans le soulier du baseball majeur tout le temps. Là. Mais Ozoué, ce genre de tournoi-là, est-ce que c'est le genre de tournoi qui peut relancer certaines carrières de joueurs? C'est peut-être pas le cas de Jonathan et de toi, que vous êtes ailleurs un peu maintenant, mais il y a sûrement des plus jeunes joueurs qui peut-être espèrent se refaire un nom à travers ce genre de tournoi-là?
Mais pas juste des jeunes, mais des joueurs plus vieux aussi. Là, on a affronté Bob Hudson qui nous a lancé deux manches. Là, puis écoute, on a vu que du feu. On a parlé dans
le c'est le cas de le dire.
C'était insane. Là. Écoute, c'était vraiment, il y avait des scouts aussi, il y a beaucoup de recruteurs. Dans les estrades aussi, tu sais, c'est pas juste les États-Unis, mais le Canada, mais il y a d'autres équipes aussi, là, le Venezuela, qui ont des joueurs, des majeurs, la République dominicaine aussi, tu sais, il y a déjà un joueur de Cuba qui est parti.
OK.
Parti la première journée, donc c'est certain.
Là, l'effet défection?
Ouais, il est parti, là, il est descendu de l'autobus, puis il a pris une voiture, puis il est parti. C'est le premier point de Cuba qui est dans l'équipe. Ça, c'est bon pour nous, parce qu'on l'a
compris. Ben oui.
C'est certain qu'il y a beaucoup là, de joueurs qui ont encore une chance là, de retourner dans le baseball affilié. Alors, c'est certain que, comme tu parles un peu, là, Sylvain, dans un tournoi comme ici, là, tout le monde veut réavoir. Oui, le but, c'est de gagner, mais il y a des joueurs aussi qui veulent retourner dans le baseball affilié.
Ben, je parlais cette semaine, il y a l'équipe Québec qui ont commencé leur saison, puis j'ai parlé un peu avec Pierre Arsenault, puis ce qu'il me disait, c'est, tu sais, dans un stade, peu importe le tournoi que tu joues, le calibre que tu joues, tu ne sais jamais c'est qui est assis et qui peut t'avoir joué. Il dit ça se peut qu'il y ait un dépisteur qui soit là, ça se peut qu'il y ait un dépisteur qui soit là comme avec son fils et sa famille. Mais il dit, quand un dépisteur rentre dans un stade, là, il travaille tout le temps un peu, même s'il n'est pas en train de travailler. Fait que, on ne sait jamais qui regarde les matchs, puis même vous avez le téléviseur ou peu importe sur Internet.
Ben écoute, on a
moi, je te confirme, Ben, que nos matchs, il n'y a pas personne dans les estrades pour nous regarder.
On ne sait jamais!
Ben, tu sais, on a des joueurs vétérans ici. Notre première game, je me rappelle, Scott Richmond, le lanceur, il est venu me voir et il me dit, dans des tournois comme ça, ce qui est dangereux, ce n'est pas les joueurs que tu connais, c'est les joueurs que tu ne connais pas.
Mm-hmm.
Les joueurs que tu connais, tu le sais déjà ce qu'ils font, comment ils frappent, c'est quoi leur tendance, tandis que quand tu as des gars que tu n'as jamais joué contre, tu ne sais pas nécessairement comment leur lancer ou qu'est-ce qu'ils font ou comment te placer en défensive. Donc, c'est ces joueurs-là qu'il faut vraiment que tu fasses attention.
En parlant de ceux qui se connaissent puis ceux qui ne se connaissent pas, là, Pierre-Luc puis Josué, je pense que vous connaissez un peu. Je pense que vous êtes même côtoyé brièvement avec les Blue Jays, probablement dans le temps des Capitals. Pierre-Luc, as-tu... soit une anecdote à propos de Josué ou encore une question à lui poser. Là, je trouve ça tellement intéressant qu'il prenne le temps soit avec nous.
Ben, je ne sais pas si une anecdote en particulier là, qui me vient en tête. Heureusement, en fait, je me demandais, étant donné qu'il y a beaucoup de coupures là, de clubs dans les mineurs, j'imagine que surtout des pays comme le Venezuela, République dominicaine, ça doit être bon, quand même des bons prospects aussi. Potentiels qui ont perdu leur job puis qui se retrouvent dans un genre tournoi comme celui-là cette semaine?
Ben oui, c'est certain. Je pense que ça, d'un côté, ça a été un petit peu plate pour quelques joueurs, mais d'un autre côté, ça permet à beaucoup de joueurs aussi d'aller se faire voir ailleurs puis de tenter leur pays comme dans le tournoi qui arrive justement aujourd'hui. Puis ça permet aussi aux équipes des ligues indépendantes aussi, de se remplir un petit peu plus de talent. Je pense un petit peu là, aux équipes. Là, un exemple, là, moi, j'ai joué pour le West Virginia Power, qui était une filiale des Pirates, qui est maintenant rendue une équipe indépendante. Puis les ligues majeures les aident beaucoup aussi. Donc, je pense que ça va donner juste un meilleur baseball aux ligues indépendantes un petit peu partout là, en Amérique du Nord. Puis ça va continuer justement à donner des jobs là, à des joueurs latino-américains.
Ben, juste avec l'équipe Québec, là, vous, dans l'équipe canadienne, il y a, je pense, deux gars qui jouent avec l'équipe Québec qui ont été prêtés le temps du tournoi, non?
Oui, je pense que oui, on a JC Hodges et Connor Panas, je pense, Joe, on a fait les
seuls. Ouais.
Actifs, oui, mais écoute, là, si on...
On a aussi deux joueurs remplaçants d'équipe Québec, Josué Pellet et Jonathan Marlon.
Tu vois, c'est 8 joueurs d'équipe Canada qui ont joué avec les Capitales. Puis, si on va plus loin, il y en a 2 avec Cuba. Donc, ça fait 10. On a 1 avec la Colombie, avec Steve Brown, 11.
Mm-hmm. Tu as le catcher actuel numéro 1. Il est portoricain. Puis, lui, il manque beaucoup présentement à l'équipe Québec, là, même s'il y a ils ont été chercher, je pense, Jeff Parra qui fait la job présentement. Mais...
On est quand même une bonne pépinière ici là, avec, dans le tournoi qui ont joué avec les Capitals. Donc, on peut voir aussi en même temps à quel point le baseball des Capitals est en santé, de un, puis de deux, le calibre aussi. T'sais, on est tous des joueurs, je dirais pas qu'on est poche, là, mais je dirais qu'on a de jouer avec les Capitals puis d'avoir du succès. Donc, je pense que ça aussi, là, c'est un bon thumbs up pour les Capitals.
Ah, ben, ce n'est que de bonnes nouvelles. Messieurs, le temps file, là. Je veux absolument qu'on discute un petit peu de la situation des Aces d'Oakland, parce que dans le fond, les Aces d'Oakland, c'est une situation qui est un peu toujours frustrante. Ils gagnent à chaque année, ils sont toujours là, ils se présentent en série, mais au niveau du baseball majeur, on n'est jamais satisfait de la situation, surtout au niveau du stade là-bas. Pierre-Luc, explique-nous qu'est-ce qui se passe en ce moment là-bas, parce que bon, le baseball majeur leur a permis d'aller explorer d'autres avenues pour... à la limite, déménager. Est-ce que c'est juste une stratégie pour mettre de la pression sur le conseil de ville pour que la situation du stade progresse, ou c'est réellement... ça peut se passer, parce que je sais qu'il y a des... la direction des Aces se sont présentés à Las Vegas la semaine dernière pour faire une visite. Donc, tu sais, il y a quand même quelque chose de concret qui se passe.
Ouais, ben en fait, je pense que oui, c'est une stratégie. Puis c'est une stratégie qui a été utilisée à maintes et maintes reprises dans les 50 dernières années par différentes organisations qui voulaient avoir un stade ou voulaient avoir une portion du projet payé par des fonds publics, d'essayer de mettre un peu de pression sur le conseil de ville, sur les comtés pour justement aller chercher des fonds publics. Mais la réalité, c'est que dans les 50 dernières années à peu près dans le baseball, il y a juste les Expos qui sont déménagés à Washington. Donc, la grande majorité des cas, c'était des menaces qui se sont pas nécessairement concrétisées. Faut dire quand même que dans la grande majorité des cas, les villes ont succombé puis ont donné aux organisations ce qu'elles voulaient. Dans le cas des Aces, c'est le projet, puis la situation est complexe. Ça fait des années et des années que ça dure. Puis, ben, en fait, Oswey, tu le sais beaucoup mieux que moi. Tu as eu la chance d'aller dans les clubhouses puis de visiter ce stade-là. Puis, je pense que c'est pas une cachette de dire qu'il est désuet. Puis qu'il si je ne me trompe pas, même que les équipes vont coucher à San Francisco au lieu d'aller à Oakland.
Écoute, on va coucher de l'autre bord du pont. Parce que c'est impossible de rester là. Puis deux, je te dirais que c'est dans le top 3 des pires terrains. En fait, c'est pas vrai, là. C'est dans le top pire terrain.
Top 1.
les joueurs n'aiment pas jouer là. Puis tu sais, je le sais que c'est une équipe que premièrement, je trouve qu'ils ont un des meilleurs GM, sinon le meilleur GM de la Ligue. Parce que, sincèrement, là, comment tu peux convaincre un joueur d'aller jouer là? Ça, c'est un. Il va tout le temps chercher des joueurs pour relancer leur carrière. Puis deux, il ne se le cache pas. Il dit, ben oui, je vais avoir des joueurs une année à la fois, puis ils vont se faire échanger. Il n'y a pas de sentiment d'appartenance quand tu joues pour les A's. Mais les joueurs, ils acceptent d'aller parce que ça leur relance leur carrière. Et ils vont jouer ailleurs par la suite. Puis c'est vraiment dommage parce que, bon, c'est une équipe qui a beaucoup d'histoire. Mais en même temps, regarde ce qui s'est passé au football. Les Raiders sont partis. Alors, on voit...
Les Warriors de Golden State jouaient à Oakland aussi, ont maintenant déménagé à San Francisco. Là, donc, il reste juste les Aces à Oakland présentement.
C'est pour ça que j'ai l'impression, il y a comme un vote important vers le 20 juillet là, au conseil de ville, puis j'ai l'impression que l'administration locale ne pourra pas se permettre de perdre 3 équipes professionnelles en l'espace de 2 ans, à peu près. Là, ça me surprendrait beaucoup. En fait, l'enjeu présentement, c'est qu'il y a comme un... Le projet, c'est de relocaliser le stade, ben, en fait, de construire un nouveau stade sur le bord de l'eau qui donnerait avec la vue vers San Francisco, puis le pont. Puis c'est un endroit, présentement, je pense que c'est un gros stationnement, il n'y a à peu près rien. Les A's voudraient construire et financer le stade eux-mêmes. Donc, on parlerait d'à peu près 1 milliard à ce niveau-là. Ce qu'ils demandent à la ville, là, c'est 850 millions pour aménager les accès, donc construire les routes, les trottoirs. C'est un endroit qui est aussi là, sujet à avoir des tremblements de terre, avoir le niveau de l'eau monte aussi beaucoup, donc des plans environnementaux à ce niveau-là. Donc, c'est quand même pas rien. On parle d'à peu près, c'est ça, presque 1 milliard. Est-ce que la ville va décider de déplier ça? C'est une bonne question.
Ben, c'est parce que, tu sais, nous, là, on est tous des amateurs de baseball. Tu sais, le lien pourrait se faire aussi avec le dossier des expos, là. Mais, tu sais, en réalité, là, les politiciens ont aussi une responsabilité là-dedans, tu sais. 850 millions, là, c'est de l'argent à tabarouette, là, tu sais. Fait que...
Attends, ton compte, toi,
850 millions, c'est le stade, mais c'est tout le quartier au complet, là, tu sais.
Comment tu dis ça? Ouais, en fait, je pense que le projet, il pourrait monter jusqu'à 12 milliards avec des appartements, puis avec des restaurants, tout ça. Mais ce que les A's demandent, c'est vraiment avoir comme leur 850 millions pour rendre ça adéquat. Maintenant, vite demain, je ne suis pas un... urbaniste, là, je ne suis pas ingénieur non plus, ça me semble être beaucoup d'argent, je ne connais pas nécessairement le site. En même temps, je pense que dans un projet d'infrastructure sportive, ça va de soi que les villes amènent des routes, puis amènent des permettent que ça ait lieu, là. Je veux dire, à un certain moment donné, c'est bien beau mettre un stade sur un terrain vacant, il faut toujours être capable de se rendre, d'avoir des stations de métro, peu importe. Donc, je pense que c'est normal que la ville fasse un bout du chemin là-dedans, mais c'est toujours difficile de quantifier c'est quoi les bénéfices réels qui vont tomber pour une ville d'avoir ou de perdre une équipe. Il y avait déjà des études économiques qui disaient, mettons, que Chicago perdait toutes ses équipes sportives. Ça ne ferait même pas un effet d'1% là, sur le PIB de la ville. Donc, il y a beaucoup de fierté qui en ressort. Il y a d'autres éléments qui sont difficilement quantifiables que juste des sous. Donc, c'est la question, mais est-ce que Oakland est prêt à perdre 3 équipes professionnelles en 2 ans? C'est une bonne question. Puis pour venir à Las Vegas, à savoir est-ce que c'est un bluff, je pense que le baseball majeur se rend compte aussi que Las Vegas est un marché potentiel intéressant. Le succès des Golden Knights le prouve.
Les Raiders aussi.
Les Raiders aussi, absolument. Donc, je pense que c'est normal que les ligues majeures essaient de considérer d'autres avenues. L'avenue de l'expansion est toujours intéressante parce que ça permet de donner de l'argent aux propriétaires. D'habitude, il y a un frais d'expansion qui est associé à ça. L'argent est divisé à partir aux 30 ou 31 propriétaires, peu importe combien il y en a à ce moment-là. Mais par contre, tu perds potentiellement là, ton leverage là, quand tu es dans des situations justement de canard boiteux où tu as un marché qui est difficile. Si tu as déjà octroyé t'es à des villes potentiellement intéressantes une équipe d'expansion, ben, tu déménages où? Là? Ça, tu perds un peu cette possibilité-là.
Là, c'est beau. Vas-y.
La nouvelle réalité aussi dans le baseball, je me rappelle, lorsqu'on est allé à Atlanta, ils ont construit un nouveau stade. Et en arrière, ils sont en train de vraiment faire une nouvelle ville. T'sais, ils ont mis des hôtels, ils mettent un centre commercial, justement, pour que ce ne soit pas juste un terrain de baseball. On le voit avec Las Vegas. T'sais, Las Vegas, tu n'as même pas besoin de rien construire. Tu as déjà tout. Alors, on peut rajouter au stade. Alors, je pense que c'est la nouvelle aussi tendance. Et ce n'est pas nécessairement juste un terrain que tu as besoin, mais tu as besoin d'un environnement. Tu as besoin de quelque chose de bien plus gros que juste un terrain. Alors, c'est pour ça aussi que je pense, là, si jamais, en tout cas, du moins, je l'espère, si les expos, jamais, ça revient à Montréal, il ne faut pas juste que ça soit un terrain. Il faut que ça soit beaucoup plus que ça. Il faut que ça soit vraiment rentable, pas juste pour l'équipe de baseball, mais il faut que ça soit rentable aussi pour les commerçants, il faut que ça soit rentable pour la ville, puis il faut que ça soit rentable aussi pour nous autres qui a payé un petit peu de ça aussi. Là.
Donc, ben, je suis entièrement d'accord avec toi. Le projet d'une équipe sportif dans une ville, il faut que ça soit un peu un projet de société. C'est pas juste... C'est difficile à comprendre par tout le monde, dans le sens où les citoyens, souvent, puis le réflexe, puis moi le premier, là, quand que je vois des factures comme ça potentielles de plusieurs millions, puis qu'on parle de payer un stade à même les fonds publics, je suis toujours un peu frileux. Puis en même temps, je pense que les propriétaires, il faut qu'ils montrent que leur intérêt n'est pas juste financier, puis qu'ils sont là aussi dans un esprit de revitaliser une portion de la ville ou de créer quelque chose de rassembleur qui va faire en sorte que les générations vont pouvoir en profiter. Puis souvent, c'est mal articulé, là, cette portion du projet-là. Ça se résume toujours en des termes financiers qui sont pas très excitants, puis qui font en sorte que on a moins l'impression que les propriétaires sont là pour les bonnes raisons. Là.
Mm-hmm. Pierre-Luc, si les expos reviennent, avec ton expérience des Blue Jays, c'est-tu quelque chose que tu dirais, ah ben peut-être que je pourrais déménager à Montréal et travailler pour les expos, c'est quelque chose qui m'intéresserait?
Non, je pense pas. Je pense que je suis. Mon trip de travailler avec une équipe, je l'ai fait. Je cacherai pas que ma situation comme professeur à l'université, c'est quand même assez enviable. Je peux vous parler aujourd'hui, puis j'ai pas de compte à rendre à personne. Tout le monde, si je décide que je m'en vais frapper des balles chez Baseball 360, demain après-midi, j'y vais, puis c'est bien correct. Là. Je le fais de temps en temps d'ailleurs, Jonathan un peu. honnêtement, j'ai vraiment eu du plaisir avec les Blue Jays, puis ça va me faire plaisir de commenter sur différentes tribunes ce qui se passe avec l'équipe de Montréal, mais de là aller travailler, non, je pense pas.
Dans tout le dossier des expos, là, Pierre-Luc, y a-tu quelque chose que quand tu entends des gens dire comme ça,
ça titille.
Ça te dit, ouais, voyons, pourquoi? Tu sais, des espèces de fausses idées préconçues
ouais.
que toi, en tant que gars d'économie, tu sais, ça peut être, tu sais, moi j'entendais, tu sais, quelque chose que j'ai pas les connaissances pour juger. C'est exemple, le premier ministre qui dit, nous, on veut faire un prêt responsable. Donc, il faut qu'il y ait plus d'argent qui revienne. Qu'est-ce qu'on donne, tu sais. Ça, c'est ouais. super dur, là, même pour un économiste à calculer, tu sais. Puis, des affaires que, comme, on n'est pas sûr, tu sais, puis je veux pas qu'on rentre trop dans les détails, mais si, mettons, l'impôt que les joueurs vont payer, ça va nous revenir, puis, tu sais, honnêtement, c'est pas si vrai que ça.
Ça revient pas tant,
je pense que ça, c'est vraiment un mythe, puis j'ai même surpris que premier ministre Legault fasse une déclaration comme ça, dans un point de presse, parce qu'il est comptable de formation, puis le premier ministre du Québec, donc il sait très bien comment ça fonctionne. Puis surtout dans un cas de garde partagé, les joueurs de baseball majeurs, là, Zoé, tu le sais beaucoup mieux que moi, c'est des PME. Là. Ces gars-là ont leurs agents, ont leurs fiscalistes, ont leurs avocats. Ils vont trouver un moyen de ne pas payer beaucoup d'impôts au Québec. Là. Surtout s'ils ont établi leur résidence dans Floride. Ils ne paieront pas beaucoup d'impôts au Québec. Là. Puis même que, tu sais, souvent, l'autre chose qui me titille aussi, c'est quand on parle de retombées économiques, que les gens vont venir dépenser. Tu sais, une équipe du baseball majeur, surtout au Québec, il y a beaucoup plus d'argent qui va quitter le Québec que d'argent qui va rentrer dans le Québec, en ce sens où les joueurs sont payés en US, les coachs sont payés en US, toutes les filiales, ça va aux États-Unis pour la plupart. Oui, il va y avoir de l'argent qui rentre au Québec, mais pour compenser ce qui sort, je ne suis pas certain. C'est pour ça que moi, ce que je propose, c'est que si on a à financer une équipe, je ne suis pas contre. Je pense que ça peut être fait dans un cadre de projet de société avec des cibles qui sont établies. Et des fois, ce n'est pas nécessairement juste économique. Là. Je pense que ça peut effectivement redonner un essor incroyable au baseball pour la jeunesse. Il y a peut-être moyen de dire, OK, ben on est prêt à financer un stade ou des infrastructures à X, mais en échange, on aimerait s'assurer qu'on augmente le membership de Baseball Québec par 50 % peu importe. Puis que ça peut être sur un paquet de choses. Je pense que tu parlais, Oswe, que ça devient des nouvelles villes. Il y a peut-être moyen d'établir des cibles à ce niveau-là, mais qui sont négociées a priori. Puis que l'argent va venir seulement si ces cibles-là sont atteintes. Donc, ça force les propriétaires de l'équipe de baseball à faire les efforts pour justement que ça soit atteint. Ils n'ont pas juste un chèque en blanc qu'on leur fait en disant, bah oui, ils vont avoir des retombées économiques. Puis après ça, ben, dans 10 ans, on se rend compte que finalement, il n'y en a pas vraiment eu. Puis pas qu'on s'est fait berner. Je pense que les politiciens ne font pas toujours nécessairement leur devoir à ce niveau-là. Puis, tu sais, je veux pas rentrer dans les détails de cette situation-là, mais le cas de la Floride avec les Jeffrey Loria et David Sampson, ils ont réussi à avoir un stade financé par la ville, puis ils n'ont jamais démontré, ils n'ont jamais ouvert leur livre comptable. Puis après ça, ça avait été leaké sur des sites Internet. Puis les autorités municipales, ils se scandalisaient que l'équipe faisait des profits alors qu'ils voulaient avoir un stade financé par le public. La question, c'est, vous ne leur avez jamais demandé d'ouvrir vos livres pour savoir ça? Si vous négociez pour un stade de 500 millions à l'époque, personne ne pose la question. Il y a des erreurs qui se font au niveau des politiciens, puis je pense que les propriétaires le savent, puis c'est des gens d'affaires qui sont habiles, qui utilisent différents mécanismes qu'ils ont. Puis, tu sais, moi, je veux donner la chance aux coureurs, je veux que ça fonctionne, un projet comme celui du retour du baseball majeur à Montréal, en tant que fan de baseball, parce que aussi j'ai le goût d'amener mon fils puis ma fille vont des parties, mais en même temps, il faut que le projet soit bien expliqué, puis il faut que le groupe en place soit prêt à être mesuré sur des cibles tangibles.
Je pense qu'on a une réalité très différente à Montréal, dans le sens que j'ai écouté un petit peu là, le monde qui dit il faut avoir un stade, mais j'avais entendu il ne faut pas qu'il y ait de toit. Moi, dans ma tête, j'étais comme... j'ai été avec des joueurs là, qui ont joué et tout. Puis les joueurs n'aiment pas ça jouer quand il fait froid. Puis on le sait très bien qu'à Montréal, au mois d'avril puis au mois de mai, là, il pleut quasiment une journée sur deux s'il neige pas. T'sais, déjà là, en partant, j'étais comme, mais mon Dieu, ceux qui pensent à ce que le baseball revienne à Montréal, là, il faut que ce soit du monde qui connaisse un petit peu, pas juste la game, mais aussi du monde qui ont déjà joué ou qui ont déjà été coach, qui comprennent. J'entendais aussi le « on va faire moitié-moitié avec Tampa ». Les joueurs n'accepteront jamais ça dans le nouveau baseball. Avoir une
famille, ouais, tu penses que c'est sûr, tout le concept des villes-sœurs.
Non, l'association des joueurs n'acceptera jamais. Ou est-ce que, comment tu fais avec ta famille? En fait, que tu loues un appartement à Tampa puis un autre appartement à Montréal. Il y a des joueurs là, qui ne peuvent pas se permettre ça. Ce n'est pas tout le monde qui fait 20 millions par année. Puis les familles qui bougent de gauche à droite, puis avoir deux locker rooms, puis avoir deux places différentes à jouer, ou est-ce que jouer à la maison n'est même plus un avantage? Pourquoi est-ce que moi, j'irais signer 5 millions à jouer à moitié Montréal, moitié Tampa, à place de signer 4 millions, puis je ne sais pas moi, aller jouer à Cleveland, parce que je sais que ma famille va être là en tout temps aussi. Tu sais, je l'ai vécu.
Ça pourrait-tu être de façon temporaire, le concept des villes-sœurs au swing?
Mais je ne crois pas pourquoi un joueur, encore une fois, accepterait de signer un 10 ans en sachant que tu ne sais même pas ce que ton équipe va faire.
Ça me prend un statement, là, Osuée, là. Si le concept des villes-sœurs arrive un jour, qu'est-ce que tu fais? Ça me prend un statement.
Je vais être content parce qu'on va pouvoir aller voir du baseball, mais j'espère que ça va être un stade qui va
avoir... Tu me livres du Ashton à Montréal.
Hey, je le fais moi. Je vais juste te dire à quel point que j'ai vécu les joueurs et leur famille. Tu sais, c'est pas juste... Quand tu signes un joueur, tu ne signes pas juste un joueur, tu signes une entreprise. T'sais, tantôt, Pierre-Luc, tu as parlé d'avocat, de fiscaliste, etc. Tu signes la femme du joueur, tu signes les enfants, tu signes où est-ce qu'ils vont habiter. Tu signes un paquet de choses qui vont alentour du joueur. Donc, pour le convaincre, il ne faut pas qu'il y ait juste « tu vas jouer puis tu vas faire de l'argent ». Il y a beaucoup plus que ça. Donc, j'écoute tout le temps à gauche et à droite ce qu'on veut faire à Montréal. Je le veux aussi, comme Pierre-Luc parlait. Là, j'ai envie d'amener ma fille, j'ai envie d'y aller. J'aimerais ça faire partie de l'équipe aussi. Là. Cependant, il faut que les personnes qui sont là-dedans, il faut qu'ils aillent s'informer un petit peu avec des joueurs, avec des anciens joueurs, qui comprennent qu'est-ce que ça... Parce que ça va vraiment plus loin que ça. Là. Je ne pourrais pas concevoir un stade pas de toit à Montréal. Ça serait impossible.
Je pense que tu amènes un bon point. Puis Benoît, tu dis, est-ce que c'est temporaire? Moi, je vois mal comment ça peut être une solution permanente. Là, dans le sens où mon feeling, puis encore là, j'ai pas de boule de cristal, mais tu dis à Tampa Bay, la région de Tampa Bay, vous perdez votre équipe majeure à 100%. Vous avez maintenant une équipe à 50%. J'ai de la misère à penser que les gens vont faire comme « Ah oui, c'est cool, on va y aller la moitié moins et on va les appuyer plus. » J'ai l'impression que ça peut fonctionner un an ou deux ou trois, peu importe le temps que les baux qui sont en fonction, ou peu importe. Puis après ça, à mon avis, l'équipe va migrer à Montréal définitivement là, parce que je vois pas comment tu peux partager une équipe comme ça à long terme puis générer un intérêt dans les deux villes.
On parle non, parce que comme Oswey l'a mentionné, il n'y a pas aucun joueur qui va signer un contrat à long terme avec une équipe en sachant que, OK, là, de juin à septembre, je suis à Montréal, quand l'école est terminée, mais puis là, les garderies et tout ça, là, tu sais, je veux dire, ils ont la même réalité que nous autres, même s'ils font plus d'argent que nous autres. Je veux dire, cette réalité-là existe pour eux aussi, puis c'est là que ça devient difficile à vendre comme concept aux joueurs de dire, ben là, il va falloir que tu aies deux appartements, deux écoles ou deux garderies ou ci ou ça. Ça devient compliqué. Là.
Totalement, mais en même temps, je pense que dans la réalité d'aujourd'hui, est-ce qu'une équipe pourrait... Tu sais, les Rays ont de la misère à signer de façon des contrats à long terme avec leurs joueurs. Est-ce que l'équipe pourrait avoir un peu le même style de philosophie que les Rays actuellement ou que les A's d'Oakland, c'est-à-dire... On développe nos joueurs, on les signe, on les développe, ils n'ont pas le choix, ils sont sous contrat avec nous pendant les 6 ans avant qu'ils deviennent joueurs autonomes, puis après ça, ils s'en vont. Puis, tu es toujours en mesure d'avoir des équipes quand même, somme toute, compétitives. Au niveau du sentiment d'appartenance, c'est une autre chose. Sauf que là, le gros impondérable, c'est qu'il y a la renégociation de la convention collective à la fin de la saison. Puis, les joueurs arrivent de plus en plus comme joueurs autonomes, à part là, les exceptions comme Harper, puis Machado, puis... des joueurs comme ça qui arrivent joueurs autonomes à 27 ans, mais des joueurs qui arrivent joueurs autonomes à 31 ans, il n'y a plus personne qui veut d'eux non plus. Alors, j'ai l'impression qu'à un certain moment donné, l'association des joueurs va bien se rendre compte que ça serait le fun que nos jeunes joueurs soient payés à leur juste valeur dès le début. Puis là, ben, ça risque d'être encore plus problématique là, pour les petits marchés qui utilisaient des joueurs de 0-3 ans de service, puis ensuite à l'arbitrage, fait la dernière année, ils les échangeaient contre un paquet de prospects, peut-être que la facture va devenir plus élevée pour payer ces joueurs-là aussi. Là. On ne sait pas comment ça va, les négociations vont tourner. Mais je ne serais pas surpris.
On a parlé tantôt du déménagement des Expos à Washington. On a parlé de Loria Samson avec les Marlins. Là, on parle de Tampa Bay, que peut-être qu'ils vont se faire jouer un tour finalement si le club déménage au complet à Montréal. Dans les trois cas, j'avais une excellente blague de lubrifiant, mais je vais laisser faire. À place de ça, j'aimerais juste qu'on fasse un petit tour de table. Parce qu'on pourra en parler pendant des heures et des heures. Ouais. Là. Mais je vous demande de me dire une date, selon vous, quand est-ce qu'il y aura du baseball professionnel à Montréal. Puis, tu sais, c'est pour s'amuser, là, une prédiction. Ça peut être jamais, là, tu sais. Pierre-Luc, si tu avais une date, là, tu sais, on fait un pool.
Ben écoute, ça peut être jamais, mais je pense que dans le meilleur des scénarios, ça serait 2028, là, tu sais, le temps de construire un stade. C'est long, là, ces choses-là. Je vois, à l'heure actuelle, avec les développements que j'entends, puis encore là, j'ai pas d'informations privilégiées, mais avant 2027-2028, je vois pas comment ça peut se passer.
Oswey?
Moi, je pense qu'il va y avoir une équipe de baseball à Montréal avant que les Canadiens gagnent une Coupe Stanley.
Arrête, on va aller loin, là.
C'est
le match de la première ronde.
Parenthèse. All the way, all the way.
Je criais tout seul dans ma chambre quand quelqu'un a parlé. On écoutait la game, on joue aux cartes. En tout cas, moi, je pense que 2030, à peu près, je pense que ce serait pour moi une chose de faisable, à condition que ce soit un stade avec un toit, puis que ce soit un stade qui va être utilisé lorsque les expos ne seront pas là. Donc, pour l'ABC, pour le soccer, pour du frisbee, pour du football, pour du soccer, pour n'importe quelle autre sorte de sport ou pour des shows, il faut que ça soit un sandbell un peu, là, tu sais, qu'on puisse faire des shows, qu'on puisse enlever la surface, qu'on puisse la remettre. Il faut que ça soit de quoi que tout le monde puisse utiliser là, et pas nécessairement juste un stade pour nos futurs expos.
Non, je suis d'accord avec Oswey sur le stade, absolument. Moi, je pense qu'il ne se réglera rien avant la prochaine négociation de la convention collective. Là. Je pense que ça va régler beaucoup de choses. Manfred a toujours mentionné qu'il voulait régler le dossier des A's et des Rays avant d'aller dans l'expansion. Donc là, comment ils vont régler ça? Est-ce qu'ils vont dire les A's, c'est réglé, le conseil de ville va régler ça peut-être cet été, puis ça va se régler. Puis après ça, les Rays, est-ce qu'on va tester le concept des villes sœurs jusqu'à la fin du bail des Rays en 2027, je pense, la fin du bail là-bas? Et là, après ça, on va transférer l'équipe à Montréal. On va peut-être dire aux joueurs, regardez, c'est pour 1 an, 2 ans, mais après ça s'en va à Montréal. Est-ce qu'on va le jouer comme ça? Mais je pense que, comme vous l'aviez dit, messieurs, le 2028, 2029, 2030, je pense pas que ce soit avant ça. À moins qu'il y ait une expansion avec la prochaine négociation qui pourrait peut-être être là, mais je veux dire, ça me semble un peu rapide sinon.
Toi, Ben, ça serait quand?
Ben écoute, avant de vous entendre, pour de vrai, je garde mon idée. Moi, je dis 2025 pour célébrer mon anniversaire de 40 ans.
Fait que demain, ils vont commencer à construire un plan.
Oui, c'est ça.
Hier.
Il y a plein de personnes qui font la rénovation chez Sylvain, je
pense. Mais
c'est la même gang.
Tu parlais de la Coupe Stanley du Canadien, là, mais moi, j'avais pris une gageure, puis ça fait déjà 5-6 ans, certains, que c'était « Est-ce que les Nordiques seront de retour avant les Expos? »
Même ça, c'est pas clair.
C'est ça. Moi, j'avais mis les Nordiques avant. J'avais mis les Nordiques avant, il y a 5 ans. Puis là, j'y crois de moins en moins. Hein.
Ouais. Les Nordiques, c'est un building.
Mais si les Expos reviennent avant les Nordiques, là, le petit 20$ là, que j'ai gagé, et que, ouais, ça me fait plaisir d'y donner.
Là, ça vaut 60 aujourd'hui, Ben. C'est plus 20, là, ça vaut au moins 60.
60 là. US.
C'est plus facile de garder une équipe que d'aller en chercher une autre.
Hein. Ah, ça, c'est
ouais.
sûr.
Ouais. Une fois qu'elle est là, c'est plus facile de la garder, puis on a fait la gaffe de la laisser partir, nous autres, ici à Montréal. Messieurs, écoute, le temps a filé rapidement. Pierre-Luc Napper, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a vraiment un repérage sur la situation. Oui, vraiment. Donc, merci beaucoup. Ozoué, ben, bonne chance ce soir. Bonne chance pour le reste du tournoi.
Ozoué, avant de te laisser partir, là, moi, je ne te mettrais pas sur le spot demain. On a une question d'un lecteur. Il demandait si ça avait été quoi tes stats en match préparatoire. T'as-tu eu des at-bats?
Ouais, j'ai eu 2, 4, 6 à te battre. Hey, j'ai un coup sûr contre les États-Unis.
Wow! C'est ça, je voulais entendre. Pas contre Robertson?
Non, je ne l'ai pas affronté, j'étais très content.
C'était-tu un beau coup sûr franc, là, ou c'était un campeur?
Oh, c'était un coup sûr.
Un coup sûr, c'est un coup sûr.
Mais ouais, peu importe comment.
Non, écoute. Sincèrement, c'était le fun d'affronter ces gars-là. Là. C'était vraiment hot. C'était vraiment cool. Sincèrement, là, les gars, là, c'était quelque chose que ça fait longtemps que je n'avais pas affronté, là, des balles de main.
Ouais.
Je parlais de Joe tantôt. Là, lui, ça n'a pas été cool. Là. Ils ont amené Anthony Goss, que ça faisait 2 retraits de suite qu'il faisait. Il n'avait pas lancé encore une curveball de la manche. Fait que Joe est arrivé et il a lancé 2 de suite. Écoute, on était sur le banc puis on a fait « il n'est pas sérieux ». Puis après ça, on a fait « ici, tu sais, c'était comme, OK, sérieux, là, va-t'en, là. C'était Joe.
On va vous souhaiter une.
Joe, il y a des couchements encore.
Ouais, j'ai saigné du nez un petit peu à la fin.
Ben, on va vous souhaiter une super semaine. Écoute, Colombie, ce soir, Cuba, Venezuela. Pierre-Luc, à soir, t'écoutes-tu le match 7 du Canadien ou Colombie-Canada?
Ben écoute, l'avantage, c'est qu'avec une télé, un téléphone, un ordinateur, on peut suivre 2-3 choses.
On va écouter les deux.
Moi, les deux, that's it.
Moi, si j'ai... honnêtement, là, si j'ai le choix entre les deux, à soir, c'est sûr, je t'écoute aux oeufs.
Ah, t'es gentil, Ben. Écoute, tu m'en fais pas des petites offsides. Moi, je pense qu'on va parler à Adam Morissette, là, notre gars de PR ici. Là. Je pense qu'entre chaque manche, je vais aller demander c'est quoi le score du Canadien parce que on a quelques gars ici de Toronto, là, comme Joe dit tantôt. Hein. Nous, on chiale beaucoup là, sur Bergevin et puis nos joueurs. Là. Laisse-moi dire qu'eux autres, là, ils parlent 27 fois plus. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné une série de stuff. Là.
Fait que, ouais, là, concentre-toi sur la game là, soir.
Ben ouais.
il va aller dans le bullpen avec l'enclos des releveurs catcher. Il va faire la claire à Greg Hamilton qui va catcher un bullpen pour préparer un gars. Il va aller tout la game dans le camp catcher.
Hey, merci Pierre-Luc, merci Ozoué, bonne semaine à vous autres et encore une bonne chance Ozoué pour le tournoi.
Merci guys.
Merci.
Ciao.
Salut.
Bye Jonathan.
Merci.
Alors Ben, on avait prévu un petit débat, mais je pense qu'on met ça à la semaine prochaine, là, parce que c'était beaucoup trop intéressant de parler du dossier des expos et tout ça, et des Ace d'Oakland et du tournoi avec Ozoué. Donc, on remet ça à la semaine prochaine. Puis j'avais aussi un « Que sont-ils devenus? » parce qu'on sait qu'on avait commencé ça un peu avec les anciens expos. J'avais Butch Henry. Tu te souviens de Butch Henry?
Ben oui.
Le gaucher. J'aime ça, les gauchers. Il y avait Kurt Porter la dernière fois. Le numéro, si tu m'en poses une bonne, je me souviens plus. Mais je sais qu'il y a eu une seule bonne saison, puis c'est en 94, la saison qu'on se rappelle des expos. Fait que, bref, on remet ça à une autre semaine. Puis,
Butch Henry, dis-nous-les. Là, tu peux pas me
poser la même question. Ben oui, c'est ça. Ça fait partie de la game, ça, Ben.
Qu'est-ce qu'il fait? Il est propriétaire d'un bar au Nebraska.
Non, mais il a été beaucoup gérant dans les ligues mineures, mais on va y aller un petit peu plus spécifiquement la semaine prochaine ou l'autre d'après. Là. C'est pas grave, c'est très, très intemporel, le que sont-ils devenus.
Ah non, mais là, j'ai pensé à ça toute la semaine. Là.
Ben, oui, fais des recherches, Ben.
Mon guest, c'est qu'il est propriétaire d'une salle de bowling au Kentucky.
Non.
Ça serait bon à m'amener un que sont-ils devenus.
Faudrait que j'en trouve un, hein, qui est absurde, propriétaire d'une salle de bouffe.
Je suis sûr qu'il y en a un.
Hey Ben, merci pour cet huitième épisode du Début Rempli. Puis on remet ça la semaine prochaine. Je te laisse le mot de la fin habituel.
Ouais, écoute, si vous avez besoin de parler, besoin d'aide, on vous rappelle que le suicide n'est jamais une option. Donc, si vous avez besoin de parler, un 866 appel. Puis nous, on se revoit la semaine prochaine.
Yes, away n'oubliez down. Pas de partager. Away down! Merci Ben. Ciao.
Bye bye.